Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Agité du local, votre émission autour de l'actualité mayonnaise sur l'autre radio. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 janvier, ravis de vous accueillir dans cette nouvelle émission où on va parler aujourd'hui des activités de l'association France Environnement 53 avec plusieurs actualités et puis évidemment des projets autour de l'eau, autour du photovoltaïque, entre autres à venir en 2023. On en parlera avec le président de la fédération d'ici quelques minutes. Vous entendrez aussi la nouvelle vie de Fanny Dion de la Cour, qui était libraire à Émirenjou à Château-Gontier il y a quelques semaines. Elle a arrêté pour se consacrer à son nouveau projet, la reprise du tiers-lieu, la Loupiote à Housset. Elle va nous raconter justement pourquoi avoir fait ce choix et puis pourquoi c'est important aussi pour elle de reprendre cette structure et de l'aménager selon ses goûts et ses envies aussi. On en parlera donc lors de l'interview. Et puis comme chaque mardi, retrouvez aussi la chronique de Donatien sur les objets inanimés aujourd'hui. Mais d'abord, un point rapide sur l'actualité avec cette grosse mobilisation à Laval contre le projet de réforme des retraites ce jeudi. Difficile pour l'instant de donner un chiffre, mais la participation semble être presque aussi importante qu'elle ne l'avait été le 19 janvier dernier, où entre 7200 et 8500 manifestants s'étaient réunis dans les rues de Laval. Le cortège vient de partir dans le centre-ville, alors que le rendez-vous avait été fixé à partir de 11h Square de Boston. Avec quelques perturbations sur la circulation des cars aller hop en Mayenne aujourd'hui, justement avec cette grève sur les lignes scolaires autour d'Evron, d'Ernée, de Mélédumène, de Montsûr et de Château-Gontier. Des perturbations aussi sur le réseau Tulle à Laval. Et pour les trains régionaux, les TER au départ de Laval vers Rennes et Le Mans, certains trains ne sont pas en circulation. Tous les détails évidemment sur le site de la SNCF pour les TER et sur allerhop.fr pour les cars et bus. Autre sujet, la Mayenne plutôt bon élève pour l'utilisation des pesticides. Selon une carte établie par Solagro, une association engagée dans la transition agroécologique, le département ne fait pas partie de ceux qui en consomment le plus, notamment au nord grâce à une majorité de prairies pour l'élevage. Les indicateurs sont un petit peu plus élevés au sud, dans le sud Mayenne, où les cultures céréalières sont plus nombreuses, mais ça reste bien moins que dans certaines régions spécialisées dans la vigne ou dans les cultures industrielles, comme le blé ou la pomme de terre. Coup d'envoi demain d'un Tour de France des déserts médicaux, impulsé notamment par les députés mayennais Guillaume Garot et Yannick Favennec, avec plusieurs autres de leurs homologues, pour présenter leur proposition de loi transpartisane contre la désertification médicale. Première réunion donc demain mercredi dès 18h à Louvernay, à la salle des Pléiades, avant de se rendre notamment dans le Loir-et-Cher, le Calvados, la Haute-Vienne ou encore l'Ardèche. Quel avenir pour le restaurant de la Rincerie à la Selcranaise? La communauté de communes du pays de Cran lance un appel à projet pour le bar-restaurant de la base de loisirs, avec une offre de services entre avril et septembre. Sont attendus comme thématique des services de restauration ou des soirées de spectacles ou concerts. Date limite de remise du dossier, le 10 février. Faire oublier le match aller, c'est la mission ce soir du Stade Lavallois qui rencontre le 16e de Ligue 2 Dijon. Le Stade Lavallois qui est donc à la 14e place pour l'instant. Lors du match aller, les Tangos s'étaient lourdement inclinés 5-0 en terre dijonnaise. Coup d'envoi ce soir au Stade Francis Le Basser à 20h45. Et puis je vous le disais au tout début de cette émission, le bilan est large, beaucoup de sujets pour l'association France Environnement 53, la fédération d'associations mayennaises autour du développement durable et de l'écologie au sens large bien sûr. Qui a justement tenu son assemblée générale vendredi dernier, l'occasion pour son président de faire le bilan de 2022 et surtout de se projeter déjà sur cette année 2023 avec plusieurs gros projets qui attendent la Fédération d'associations environnementales que va nous présenter Jean-Marc Laloz.
Jean-Marc Laloz, président de la Fédération pour l'environnement en Mayenne, coordinateur du collectif Bocage 53. Il y a un thème qui date, qui a une quinzaine d'années maintenant, c'est Aprochim. Et on a enfin eu, il y a 15 jours à peu près, un point final. La chose maintenant est jugée, Aprochim a été condamné. Et ils ont d'ailleurs, ils n'ont pas voulu aller en cour de cassation. Donc vraiment, l'affaire est close et jugée. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant. Sinon après, ben, on a tous les fils rouges, je dirais, année après année. Donc vous avez toutes les énergies renouvelables. En particulier le photovoltaïque, particulièrement la branche agrivoltaïque, qui évidemment entre en conflit complet avec l'objectif de zéro artificialisation des sols agricoles, artificialisation nette en 2050. Donc là, il y a vraiment un problème de vigilance par rapport aux terres susceptibles d'être, disons, artificialisées justement par ces projets. Donc tout ça, c'est encore en réflexion. Il y a la loi sur l'énergie renouvelable qui a été discutée au Parlement la semaine dernière. Donc on va voir, mais certainement que l'année 2023 va permettre d'affiner tout ça et de définir un petit peu, si on peut appeler ça comme ça, les cahiers des charges qui permettront vraiment d'avancer, parce que de toute manière, on a besoin de cette énergie. On n'a pas, par exemple, un groupe de travail sur l'eau. Et on va très rapidement constituer un groupe de travail, parce que c'est un point clé avec le problème du changement climatique qui va nécessiter un dialogue. Nous, il y a un terme dont on a horreur, c'est le conflit d'usage, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. On doit partager. Ce qui est fondamental, c'est de ne pas couper les piliers de ce qui permet la vie sur Terre, c'est-à-dire la biodiversité, le puits de carbone, etc., et que toutes les fonctions économiques, agricoles qui en dépendent, elles, soient associées à ce partage. Mais il faut absolument privilégier la qualité de la ressource et la quantité de la ressource. La logique voudrait de réhabiliter toutes les zones humides qui sont les éponges naturelles qui permettent le maintien de l'étiage et donc de la ressource en eau l'été, par exemple, avant de parler de faire des bassines. Parce que les bassines, c'est un peu, on a cassé le jouet et on met de la colle pour essayer de faire quelque chose. C'est pas très logique, quoi. C'est des dossiers qui sont venus sur la commission des carrières départementales qui nous inquiètent beaucoup parce que, bon, il y a des impacts sur l'environnement évidents. Et en particulier, au niveau de Marigné-Poton, il y a des impacts forts sur des zones humides, des choses comme ça, et que la biodiversité est en cours. Et c'est vraiment un problème qui doit, là aussi, ne pas laisser la bride sur le cou aux carriers, mais ils doivent absolument... Bien sûr, ils ont leurs impératifs qu'on respecte, mais par contre, c'est toujours pareil, l'économie ne doit pas nuire à la biodiversité, mais doit se réconcilier avec la biodiversité ou avec l'environnement au sens large. Donc c'est dans ce sens-là qu'on travaille, mais c'est un sujet très lourd, avec un lobby qui est très, très puissant.
France Environnement 53 travaille également sur d'autres sujets, bien sûr. On rappelle qu'elle regroupe 26 associations environnementales dans le département, dont notamment Mayenne Nature Environnement, Place au Vélo ou encore d'autres associations plus locales. Et sachez que si vous souhaitez signaler soit une maltraitance environnementale, soit une initiative favorable à l'environnement, l'un ou l'autre, eh bien vous pouvez le faire sur le site Sentinelle avec un S de la nature.fr, site national de France Environnement. On fait une pause en musique avec Aurora The Seed avant d'entendre ce nouveau parcours et cette nouvelle aventure que s'apprête à franchir Fanny, que vous connaissez sur nos ondes, lorsqu'elle faisait ses chroniques pour Amy Ranjou. Just like the sea, I don't know where to go. Through dirt and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the seed, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow motion. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back.
again. 'Cause just like the sea, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget.
C'était Aurora The Seed dans l'agité du local sur l'autre radio que vous pouvez écouter à Laval au 101.7 ou à Château-Gontier sur le 107.9 bien sûr. L'heure de passer à l'interview de ce mardi de la librairie Emily Ranjou au tiers-lieu La Loupiote à Housset. C'est le grand pas que s'apprête à franchir et qu'elle a déjà un peu franchi Fanny Dion de la Cour en reprenant la gestion de l'épicerie ouverte à Housset en octobre 2021. Par Xavier Chevelon. Elle compte conserver l'ADN de ce lieu de vie qui participe au lien social dans la commune et ses alentours, en lui apportant aussi quelques petites nouveautés. Un mois avant le changement de gérant, on fait le point.
Je suis Fanny Dion de la Cour. Effectivement, j'ai travaillé pendant 8 ans à la librairie Emily Ranjou. Et avant ça, j'étais aussi libraire, mais à Compiègne. Et là, depuis l'année 2000, donc ça fait donc 20 ans que j'ai été libraire, disons, puisque je ne suis plus libraire.
Ça fait pas très longtemps.
Donc oui, c'est depuis la fin de l'année, voilà. Et je suis mayennaise d'origine. J'ai donc passé pas mal de temps dans l'Oise, mais je suis revenue en Mayenne pour mon plus grand plaisir. Peut-être pour cette raison aussi, je suis très contente de ce que je vis aujourd'hui qui va m'ancrer peut-être encore un peu plus dans le terroir mayennais.
Avec ce nouveau projet, cette reprise du tiers-lieu La Loupiote à Housset, tiers-lieu qui avait été ouvert il y a un petit peu plus d'un an par Xavier Chevelon, qui a choisi de vous donner le témoin. Comment ça s'est passé ?
Alors, c'est pas lui qui a choisi, c'est moi qui suis allée vers lui quand j'ai appris... Un peu plus tard, mais en tous les cas, depuis l'été dernier, Xavier parlait de laisser la Loupiote parce qu'il n'arrivait plus à en vivre et il était accaparé par ses autres activités professionnelles qu'il était obligé de tenir financièrement. Et il a donc des activités de journaliste à côté et d'animation de réunions. Sur le moment, je me suis dit, franchement, c'est trop dommage parce que ce lieu-là de rencontre, ce bar-épicerie dans un petit village où il n'y a rien d'autre, c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment une opportunité comme habitante, puisque j'habite Saint-Sulpice depuis quelques années et que comme cliente, j'ai profité de la loupiote. Et puis moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on doit absolument développer dans nos campagnes, dans cette proximité avec les gens. Donc, je n'ai pas pensé à moi tout de suite parce que je n'étais pas encore complètement convaincue, on va dire. Simplement, quelques semaines plus tard, une nuit, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? C'est cuisiner. Je passe beaucoup de temps à cuisiner, j'aime bien cuisiner pour nous, cuisiner pour les amis. Et je me suis dit, finalement, c'est peut-être ça qui manque à la loupiote, c'est cette dimension de restauration qui pourrait faire que ça marche vraiment mieux. J'en ai discuté avec Xavier parce que c'était aussi important de commencer par lui, évidemment, puis d'avoir son retour tout de suite sur ma nouvelle idée. Et puis, il a tout de suite été partant, intéressé, enthousiaste et aidant, puisqu'il a décidé de rester à la loupiote jusqu'à ce que j'arrive. Donc ça, c'est vraiment super.
Là, justement, vous êtes resté à la librairie jusqu'à fin décembre.
Oui,
là.
Ça, c'était super important de finir l'année à la librairie. C'est la plus grosse période. Et puis j'étais engagée aussi. Je ne pouvais pas partir comme ça. Et il faut dire quand même que j'étais très bien à la librairie de Château-Gontier. C'est un super lieu avec une très chouette équipe. Donc, si j'ai eu envie de partir, c'est plus par rapport au métier même de libraire et la fatigue engrangée toutes ces années par cette obligation de lire pour le travail. J'ai aussi des problèmes de dos récurrents. Et puis, je crois que j'arrive aussi, j'ai 55 ans, j'ai cette perspective encore de ces années qui restent avant la retraite. En tous les cas, j'avais envie de vivre une nouvelle expérience ça m'est arrivé un petit peu comme sur un plateau.
Donc ça y est, une fois que ce choix a été fait, j'imagine que c'était une grande décision. Comment ça s'est préparé justement, puisque Xavier reste là jusqu'à ce que la prise officielle par vous, Fanny?
Oui.
Comment ça se passe? Est-ce que justement vous êtes venu voir aussi comment ça se passait, la gestion d'un tel lieu?
Alors ça me paraît déjà loin, c'est fou. Ça s'est fait assez doucement. Bon... J'ai pris contact avec Codémarrage 53, la coopérative d'activité dans laquelle s'intègre Xavier et que je connais bien puisque mon compagnon y est déjà, pour savoir si je pourrais moi aussi entrer dans cette coopérative pour avoir le statut de salarié. Et bon, ça, c'est comme ça que ça va se passer finalement, et c'est très très bien. J'ai signé mon contrat CAP cette semaine, je suis officiellement, je fais partie de la coopérative. Et c'était très important pour moi parce que Codémarrage nous permet de garder un statut de salarié, donc ça c'est bien. Et puis c'est un réseau, c'est vraiment des gens très compétents qui offrent un soutien très important au niveau de la gestion, de la compta. C'est plein d'entrepreneurs différents, de milieux différents, d'activités différentes. C'est d'une grande richesse et j'avais besoin, dès le départ, de savoir que je pourrais compter sur eux. Ensuite, on a pris le temps avec Xavier déjà de discuter beaucoup, de savoir comment il vivait les choses. Et puis moi, j'ai rapidement été rencontrer des acteurs qui ont déjà vécu quelque chose d'assez proche, parce que j'avais besoin de ça. Surtout pour ce qui concerne l'aspect restauration, puisque je ne suis pas restauratrice du tout, bien que j'aime cuisiner, mais j'avais besoin d'entendre des gens qui se sont lancés comme ça. Et donc, je suis allée, par exemple, à Pré-en-Paille rencontrer Céline au comptoir. Et Céline, bon, ça fait maintenant 8 ans, je crois, qu'elle fait ça. Et elle a commencé exactement comme moi, une petite épicerie, un bar et une petite restauration qui lui permettait d'utiliser les légumes un peu flétris, de mettre en valeur les produits locaux, etc. Et donc, c'était vraiment une rencontre qui m'a fait beaucoup de bien. Je suis allée voir Coralie qui a ouvert Coco Latte à Bazouges parce qu'elle propose aussi une petite restauration très simple le midi. Et elle m'a parlé un petit peu de comment elle s'organisait. Maintenant, je vais plutôt voir les fournisseurs qui m'intéressent et voilà, les gens avec qui je vais travailler directement.
Que ce soit aussi bien au niveau des fournisseurs, vraiment de ce qui est vendu dans l'épicerie, que aussi l'aménagement du lieu en tant que tel, puisque là, pour l'instant, ça n'est pas prévu pour qu'il y ait cet espace restauration.
Voilà.
J'imagine que ça, c'est un gros chantier aussi.
Voilà, mais c'est un peu le nerf de la guerre, on va dire, parce que bon, c'est, donc j'ai besoin d'une cuisine qui doit être aux normes, hein, puisqu'on ne fait pas les choses n'importe comment chez nous, en France, je veux dire, quand on lance comme ça une activité de restauration, et c'est normal. Donc avec la mairie, parce qu'il faut rappeler que la mairie est quand même à l'initiative du projet avec Xavier, donc la mairie de Housset. Donc on a discuté et la mairie a été d'accord pour que j'aménage 2 pièces attenantes à la loupiote, l'une en cuisine et l'autre en réserve. Il faut faire quelques travaux et c'est ça que je vais faire là au mois de février. Bon, pour l'instant, j'ai œuvré à trouver des financements parce qu'il y a énormément de choses à acheter, du matériel, beaucoup de voilà, du matériel inox, bien sûr des appareils ménagers. Et puis, il faut réorganiser aussi la loupiote. J'ai besoin de nouveaux mobiliers, de réagencer le bar. Il me faut, là, j'ai décidé d'investir dans une bonne tireuse pour travailler avec la brasserie de Loudon et puis pour faire face vraiment aux soirées un peu d'animation.
Des travaux d'ailleurs qu'on peut aider aussi si on veut participer justement pour que ce lieu se perpétue. Vous avez lancé une campagne participative.
Oui, c'est gentil de le mentionner parce que c'est une démarche qui n'est pas facile du tout. En fait, j'aurais bien aimé m'en passer parce que j'espérais au tout début profiter d'une subvention de la région. Donc je me suis décidée, c'est avec Xavier... On a discuté parce que lui-même avait fait appel à un financement participatif. Donc j'ai décidé de lancer une cagnotte sur Litchi. Donc ça s'appelle le nouveau départ de la loupiote. Pour ceux qui seraient intéressés d'aller jeter un coup d'œil, éventuellement de participer. Parce que en fait, le principe des cagnottes comme ça, c'est vraiment quelques euros qui s'additionnent encore et encore. Et en fait, bon là, je suis assez loin de mon objectif. Et il reste 3 semaines, puisque j'ai donné mi-février comme limite. Bon, en attendant, je suis aussi accompagnée par les cigales mayennaises. Alors, les cigales, ce sont, pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des groupements de personnes. Ça peut être vous ou moi, sur Château-Gontier, Laval, Mellet. Il y a des groupes comme ça, entre 12 et 20 personnes, qui décident tous les mois de mettre un peu d'argent de côté pour soutenir des projets locaux avec du sens, des projets qui les intéressent. Donc c'est des prêts à taux zéro qui sont très souples dans la durée. Et en plus, ce sont des gens intéressants et qui nous suivent ensuite, qui vont suivre notre activité. Encore une fois, c'est du réseau.
L'objectif, c'est d'ouvrir début mars, si j'ai bien suivi,
oui,
c'est ça ?
Oui, on a fixé le 1er mars. Alors... cette date est un petit peu suspendue à des aléas comme, est-ce qu'on va réussir à... Parce qu'il y a aussi des travaux d'électricité, de plomberie. Bon, vous savez, les artisans aujourd'hui sont assez débordés. Il y a le fait qu'il faut qu'on soit disponible vraiment pour terminer les travaux, l'installation, les livraisons de matériel aussi. Alors, c'est pas gagné, c'est compliqué en ce moment, les délais sont longs. C'est vraiment un objectif que je me donne, que je vais essayer de tenir, mais je serai peut-être obligée, comme c'est arrivé pour Xavier, de reculer d'une semaine ou deux. En tous les cas, j'ai envie de commencer, ne pas commencer à moitié. J'ai envie de commencer et que toutes les propositions soient là.
Justement, dans le détail, ça ressemblera à quoi cette nouvelle loupiote ?
Eh bien, je vais garder exactement la base de Xavier, le bar et l'épicerie. Dans l'épicerie, avec un choix vraiment de produits le plus possible bio ou en circuit court. moi, en plus, avec cette chance, cette nouveauté de la restauration, ça me permet vraiment de proposer dans l'assiette des choses que je vais vendre en magasin. Je pense aux champignons. Là, j'ai eu Margot hier, les champignons de Rueil-Froidfond. Eh bien, je sais déjà, parce que je les cuisine beaucoup à la maison, que je vais pouvoir faire des recettes avec ces champignons. Ce qui va permettre aux gens de savoir un peu mieux aussi comment utiliser ces pleurotes et ces shiitake que tout le monde ne connaît pas. C'est un exemple, hein, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Au niveau restauration, je vais proposer des choses très simples. Deux choix par jour, une proposition plutôt végétarienne et une proposition avec de la viande. Et puis des sandwichs. Et puis je vais aussi lancer des soirées tapas le vendredi et samedi. Xavier veut garder l'aspect événementiel, parce qu'à la Loupiote, donc, c'est un lieu où les gens ne viennent pas seulement faire leurs courses ou boire un coup. Il y a aussi des concerts, il y a des rencontres, il y a eu le week-end dernier une après-midi échec organisé par l'école. Xavier propose de garder cette branche-là de la Loupiote, de l'événementiel, et en créant une petite association de soutien, et ce qui permettra aussi lors des soirées de ne pas être toute seule, c'est-à-dire d'avoir 2-3 personnes pour m'aider, et ça va permettre vraiment de multiplier les occasions, les petits concerts, les rencontres, et c'est chouette parce que c'est ça aussi qui fait vivre le village. Il y a eu plein de prémices, de petites graines de planter là. Et ce serait trop dommage de ne pas donner suite à tout ça, parce que Xavier me disait, mais moi ce que j'adore, c'est de voir des gens qui ne se connaissaient pas, qui habitent le même village, et puis qui sont devenus amis parce qu'ils se sont rencontrés autour d'un verre, en faisant leurs courses, ou à l'occasion d'une soirée. Et moi j'ai vraiment envie de continuer comme ça. C'est aussi un endroit où peut-être les gens qui se sentent un peu seuls dans le village, ils savent qu'ils peuvent venir discuter quelques minutes, c'est important.
Le lieu reste donc ouvert jusqu'au 12 février avant de fermer ses portes et de rouvrir début mars. Toutes les infos actualisées au fur et à mesure des travaux sont et seront à retrouver sur la page Facebook La Loupiote, où c'est, tout simplement. On va faire une pause en musique avec Arnaud Rebottier. Décidément, je mange mes mots aujourd'hui avec Arnaud Rebottini. Et juste après, ce sera la chronique de Donatien.
Thank you.
120 battements par minute d'Arnaud Rebottini, issu évidemment du film du même nom de Robin Campillo. Je ne sais même pas si je prononce bien, c'est terrible. En tout cas, c'est ce que vous venez d'écouter dans l'agité du local sur l'autre radio. Et place à notre rendez-vous hebdomadaire poétique et musical. Et oui, c'est le retour de la chronique de Donatien dans l'agité du local. Et aujourd'hui, il se bat un peu contre certains objets du quotidien, vous allez l'entendre.
Ce matin-là, le jazz sonna à 6h45, comme d'habitude. Allez savoir pourquoi le réveil décida de se précipiter du chevet sur le parquet, chute qui lui fut fatale. Décision arbitraire, lassitude de vivre jour après jour marquée les heures interminables de l'ennui, attendre souvent minuit qu'on lui remonte le moral pour quelques heures plus tard lui intimer de se taire jusqu'au soir. Avec son suicide aussi brutal qu'inattendu, le réveil qui entraîna dans le chaos l'aiguille marquant les heures, celle des minutes et la dynamique trotteuse qui ne s'accordait jamais une seconde de répit, avec son suicide, le réveil envoya à Saturne, dont il était l'employé assidu, une démission de fait, et la grande aiguille ce matin-là n'atteignit jamais le sommet du cadran circulaire indiquant 7 heures. Après la douche, à la température capricieuse, après le rasoir qui délibérément prit la décision d'entailler cette partie si délicate de la peau au-dessus de la lèvre supérieure, après la biscotte qui choisit de périr par noyade dans le bol de café trop chaud, la voiture refusa de démarrer. Alors Donatien se dit que ce n'était pas un bon jour, que le monde des objets était contre lui, mais qu'il n'était pas superstitieux et qu'il passerait sous la première échelle qui se présenterait pour le démontrer. Malheureusement, aucune échelle de peintre ou de couvreur ne se présenta sur les 2 kilomètres de trottoir parcourus à pied sous une pluie battante. Le parapluie, par solidarité contestataire, avait décidé de disparaître, de se cacher on ne sait où, de faire grève, peut-être comme les peintres et les couvreurs, ces derniers prenant le risque en ce jour maudit de laisser choir sur le trottoir ce qu'il faut bien nommer une tuile. Donatien avait prévu faire lire à ses élèves l'invitation au voyage de Charles Baudelaire, mais il eut peur soudain que, sur les canaux, les vaisseaux, soient engloutis par les désirs suicidaires des objets qui manifestement avaient décidé, ce jour-là, de faire chier le monde. Par crainte de voir les riches plafonds s'écrouler et les miroirs se briser, le professeur choisit de poser à ses élèves la question, soumise à la perspicacité de tous les romantiques, par Alphonse de Lamartine, né le 21 octobre 1790 à Mâcon. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Toujours à pied, sur le chemin du retour, Donatien s'arrêta aux prises uniques, s'acheter un nouveau réveil.
La chronique musicale en entier est à retrouver, avec la musique en entier en tout cas, est à retrouver en podcast, évidemment, comme d'habitude, sur notre site l'autreradio.fr, bien sûr. puisque, vous le savez, à chaque fois, ça signe la fin de cette... Et ça sonne, je ne sais pas, ça signe la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce mardi. Restez sur l'autre radio, puisqu'à 19h, il y aura Eldorado. Ce sera suivi à 21h de l'émission Frères de Chaussures. Et nous, on revient demain, toujours à 12h15 pour l'Agité du Local. Je vous souhaite une très belle journée.